Hello, hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre podcast hebdomadaire Étincelle, le podcast inclusif qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va à la rencontre d'Agathe, qui est la fondatrice du collectif Fringuée. Donc vous avez bien compris, on va parler de la mode, du fashion, mais cette fois-ci conjuguée à l'éco-responsable. Donc restez à l'écoute. Merci Agathe d'avoir accepté le rendez-vous chez Étincelle. Donc je commence toujours mon interview avec une question philosophique qui est « Qui es-tu, Agathe ?»
Bonjour, merci de m'avoir aussi donné l'opportunité de faire ce podcast avec toi, je suis ravie. Moi du coup je suis Agathe, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon et je suis la fondatrice d'une marque de vêtements responsable qui s'appelle Collectif Fringuée. Et qui est engagée pour une mode juste et éthique. Et je suis moi-même très engagée dans tout ce qui est écologie, éco-responsabilité, etc.
Super. Agathe, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le concept de ta marque ?
Le principe de Collectif Fringuée, c'est que c'est une mode qui est collaborative sur deux aspects. En fait, le premier aspect, c'est qu'on développe tous nos vêtements avec notre communauté. Dans un premier temps, via un questionnaire qui va nous permettre de définir le portrait robot du vêtement. Donc, imaginons, on prend une robe, ça va être la longueur, le type de manche, est-ce que c'est des bretelles, des manches longues, des manches courtes, etc. Si le décolleté, il est en V, en rond. Et ensuite, le principe, c'est qu'une fois qu'on a notre portrait robot, notre croquis final, on va travailler avec ma modéliste pour construire le vêtement. Puis, on va faire des sessions de co-création, des sessions d'essayage avec des femmes de notre communauté pour être sûre de coller au mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Et en fait, en parallèle de ça, toutes nos créations sont conçues et dessinées par un styliste indépendant dans le but de vraiment mettre en lumière son travail, ses projets pro et perso. Et en fait, moi, quand j'ai créé Collectif Fringuée, je me suis dit qu'on connaissait très peu les artistes et les designers qui se cachaient en fait derrière nos dressings. Et j'ai eu envie de les remettre en lumière et de parler d'eux à fond grâce à ma marque. Ensuite, Collectif Fringuée, c'est une marque qui est made in France. Tout est confectionné en France. En privilégiant les chantiers d'insertion. Donc aujourd'hui, on travaille avec un atelier à Marseille qui s'appelle l'atelier Très Atypique, qui est un super atelier que je recommande absolument. Toutes les matières qu'on utilise en fait sont issues de fins de rouleaux que j'ai chinées, récupérées dans des ateliers, dans des usines, qui avaient en fait destination à ne pas être utilisées, voire à être jetées. Et grâce à la marque, je leur redonne une seconde vie.
Et justement, aujourd'hui, vous êtes combien, Agathe ?
Donc, moi, je suis la fondatrice. Il y a Marion, qui est la styliste de notre combinaison. Francesco, qui a dessiné la robe. Caroline, qui a dessiné notre ensemble chemise short. Et Cécile, qui est notre modéliste et qui donne vie au croquis des stylistes.
Top. Du coup, vous êtes à peu près 5, c'est ça ?
C'est ça.
Et du coup, Agathe, c'était quoi ta plus grande peur avant de te lancer dans le monde entrepreneurial ?
Alors, moi, j'ai longtemps pensé que j'étais trop jeune, que j'étais pas forcément légitime à me lancer, que j'avais pas suffisamment d'expérience. En plus, je viens pas de l'industrie textile, mais c'est une industrie qui m'a toujours tenue à cœur et à force d'informations et de renseignements, pour moi, c'était vraiment une industrie, un secteur où il y avait vraiment quelque chose à faire pour l'améliorer et pour changer, entre guillemets, le monde ou en tout cas apporter ma pierre à l'édifice d'un monde un peu meilleur. Et ouais, c'est ça, pour moi, c'est le manque d'expérience, la jeunesse et le manque de légitimité.
Comment tu as fait justement pour passer à l'action ? Parce que aujourd'hui, tu as un collectif et du coup, comment tu as pu regrouper un peu tout le monde, partir à la recherche des tissus qui ne sont pas...
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mes études, j'ai travaillé pendant 3 ans à Paris. Mm-hmm. Je vais raconter un peu ma vie. Hein. J'ai travaillé pendant 3 ans à Paris en marketing. J'ai un peu enchaîné les jobs et en septembre 2019, j'ai un petit peu... pété un câble et avec mon conjoint, on a décidé de partir voyager. En fait, à ce moment-là, moi, j'avais quitté mon CDI et je pensais déjà, j'écrivais déjà des idées sur papier, business plan, etc. Je posais un petit peu des questions autour de moi, mais sans vraiment me lancer finalement. Puis on est parti en voyage. J'ai continué à travailler sur mes projets, à me renseigner sur l'industrie textile, sur tout ce qui touchait à la mode éco-responsable, etc. Et en fait, on est rentré en urgence en mars 2020 à cause d'un virus qu'on commence tous à plutôt bien connaître. Et en fait, je me suis retrouvée chez ma maman en confinement. Et je me suis dit, tu as commencé à travailler pendant plusieurs mois sur ton projet, lance-toi vraiment à fond maintenant. De toute façon, c'est un peu un signe. Enfin, j'ai vraiment interprété le confinement et ce retour précipité en France comme un signe. Et c'est ça qui m'a donné la force de me lancer.
Super. Et en fait, justement, c'est intéressant que tu racontes l'histoire parce que même le fait que tu posais le business plan, etc., tu savais que c'était dans le textile, en fait, c'est ça?
J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose dans le textile, oui, parce que c'est un secteur qui me tenait à cœur, dans lequel pour moi, on a perdu la valeur des choses, on a besoin de remettre du bon sens finalement dans cette industrie, et je savais que ce serait autour de ça, je ne savais pas quoi exactement. Je posais plein d'idées, et en fait, quand j'ai commencé vraiment à me lancer, là, j'ai contacté plein d'acteurs de l'industrie textile, de la mode responsable, des stylistes, des marques, des assos pour discuter, pour échanger. Et en fait, c'est vraiment au fil de toutes ces discussions, de toutes les questions que je pouvais avoir, que le principe collaboratif, le principe collectif fringué, en fait, a vu le jour.
Parlant de business plan et un peu à toutes ces discussions avec ces acteurs-là, c'est quoi les étapes clés qui t'ont permis de passer de l'idée au projet concret?
Moi, ça a été beaucoup d'échanges et de discussions. De poser beaucoup de questions pour mieux comprendre le secteur, pour mieux comprendre ce qui se faisait déjà, regarder la concurrence, mais surtout, enfin pour moi, ce qui est vraiment le plus important en fait, c'est de parler avec des gens et de poser plein de questions à des personnes qui pourraient être notre potentiel, enfin nos futurs acheteurs ou notre potentiel cible. En fait, il faut être super curieux, il ne faut pas avoir peur d'aller voir des personnes, d'envoyer des mails, d'appeler, même carrément d'aller poser des questions à des personnes dans la rue. Enfin, aller sur le terrain, en fait, je pense que c'est ça qui derrière va commencer à vraiment concrétiser un projet et va réussir à faire en sorte qu'on va avoir plus de billes et plein de réponses à nos questions pour mettre en place. Proposer en fait une offre complète.
Et justement, tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Tu disais que la marque, elle est collaborative et que vous faites ça avec votre communauté. Et justement, comment t'es passé pour construire une communauté et comment tu t'es pris parce que ça demande un grand travail de communication. C'est quoi les leviers sur lesquels tu t'es appuyé pour justement construire une communauté? Parce que ça, c'est un peu la question de tous les entrepreneurs.
C'est vrai. En fait, dès que j'ai su que je voulais lancer la marque, c'est grâce au conseil d'ailleurs de la fondatrice de WeDressPair qui m'avait dit lance ton compte Instagram le plus rapidement possible. De toute façon, même si ta charte graphique change, même si tu n'as pas ton logo, c'est pas grave, tu peux commencer à communiquer sur ton projet. Et même si ton projet change, c'est pas grave parce que tu pourras en parler. Donc, je l'ai écouté, je l'ai fait. Et puis, en fait, j'ai commencé. D'abord à inviter mes amis, puis ensuite la communauté s'est développée petit à petit en expliquant mon projet. Puis j'allais parler à des gens, encore une fois, je continuais à poser des questions, à demander à des personnes si elles étaient OK d'échanger avec moi par téléphone ou autre pour répondre à toutes les questions que je pouvais avoir. Et puis c'est un gros, gros travail, c'est vrai, de design, de contenu. J'essayais vraiment de donner des informations sur l'industrie textile, sur ce qui se passait et pour pouvoir ensuite mieux expliquer mon projet.
D'accord. Pour toi, quelles sont les qualités indispensables pour qu'une femme entreprenne un business ou un projet?
Je pense que, alors pour moi, je ne fais pas forcément de distinction entre hommes et femmes au final. Et moi, je pense que la qualité première d'un entrepreneur, c'est la résilience. C'est de pouvoir se dire que, de savoir se rendre compte si quelque chose ne marche pas, de pouvoir pivoter du jour au lendemain. Et en fait, surtout de jamais baisser les bras parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Des échecs, il y en aura plein avant d'avoir un véritable succès. Et ouais, je pense qu'il faut avoir un bon moral.
Ça marche. Et aujourd'hui, c'est quoi ta journée type?
Alors, ma journée type, en général, je me réveille, je prends mon café, je commence un peu du coup, à faire un petit tour sur Instagram pour découvrir de nouveaux comptes, de nouvelles marques, aller voir un peu ce qui s'est passé sur la sphère réseaux sociaux. Je fais mes mails. Et en fait, moi, je m'organise vraiment, genre, dans mon agenda, c'est heure par heure ce que je dois faire. Enfin, par exemple, aujourd'hui, ce matin, c'était gros focus médias. Donc, communiquer, enfin, envoyer mon kit média pour obtenir potentiellement des relais sur ma campagne de crowdfunding. Et cet après-midi, planifier tous mes posts sur Instagram, justement.
Super, du coup, tu fais le planning sur un mois, etc., c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. J'écris tout et je programme tout. Et mon planning, en fait, j'ai une to-do générale. Puis j'ai une to-do du jour. Et en fait, la veille au soir, je planifie ma journée du lendemain, heure par heure. Donc voilà, par exemple, de 9h à 10h ou de 9h à 11h, média, de 11h à midi, tel rendez-vous ou tel call, ou bien telle mission, de 15 à 16h, finances prévisionnelles, etc.
D'accord. Et du coup, tes journées, elles font combien d'heures par jour en moyenne, du coup?
Ça dépend, mais généralement, je commence à travailler vers 7h30, 8h, et je m'arrête vers 19h,
Ah
20h.
oui.
Après, il y a des journées quand même qui sont moins chargées, mais en ce moment, je parle vraiment d'en ce moment, je suis en pleine campagne de financement participatif, donc forcément, c'est très prenant, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais je fais des grosses journées quand même. Mais c'est la période qui veut ça.
D'accord. Et Agathe, aujourd'hui, c'est quoi les outils essentiels que tu utilises justement pour réaliser tes projets et vraiment que tu vois pas ta vie d'entrepreneur sans eux?
Bah ouais, l'agenda, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, m'organiser par bloc dans mon agenda heure par heure, ça pour moi, c'est vraiment crucial. Pareil, je suis très aussi. J'aime bien prendre des notes sur un cahier. Et donc, du coup, je ne vois pas ma vie d'entrepreneur sans mon cahier pour mes to-do, pour prendre des notes pendant mes rendez-vous, etc. J'aime pas être exclusivement digital. Après, j'ai des applications pour tout ce qui est com, typiquement sur Instagram, Preview, et des applications de programmation qui s'appellent Facebook Creator Studio. Ça va être vraiment, vraiment les principales. Puis après, tout bête, hein, mais Excel reste un outil quand même assez pratique.
D'accord. Et aujourd'hui, si tu dois prendre un peu de recul, ce sera quoi ton meilleur échec?
Depuis le début de l'aventure entrepreneuriale, je pense que peut-être de ne pas avoir, là typiquement, je prends l'exemple en ce moment, eh ben, peut-être de ne pas avoir suffisamment communiqué auprès des médias sur mon projet avant de lancer ma campagne de précommande. Et donc du coup, je sais que c'est une erreur que je ne referai pas par la suite.
D'accord.
Et puis avec les médias, par exemple, j'ai aussi beaucoup appris en faisant et pendant et en ayant des conseils sur le moment. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû plus anticiper. Et donc, ouais, c'est des choses que j'anticiperai plus par la suite.
Ton apprentissage, ça sera quoi exactement par rapport à cette expérience-là?
Et bien, ça va être de contacter les médias. C'est tout bête, hein, mais on m'a dit, moi au début, j'envoyais des mails. qui restaient pour la plupart sans réponse. Et en fait, on m'a juste dit un jour, ah, mais non, envoie un mail et directement, tu appelles l'accueil et tu demandes à parler à la personne à qui tu as envoyé ton mail. Et en fait, je ne faisais pas ça du tout au début. Là, j'ai commencé à le faire et effectivement, ça a plus de succès. Enfin,
D'accord.
pour le coup, c'est un petit conseil qui paraît rien du tout, mais qui peut potentiellement peut changer beaucoup de choses.
Carrément. Et aujourd'hui, par rapport, parce que tu t'es lancé en plein Covid, c'est ça?
Ouais.
Et du coup, c'était quoi ton bilan de cette année 2020, qui était une année assez complexe, justement, et volatile et agile?
Le bilan, au final, cette année, elle a été un peu en dents de scie, enfin en montagne russe, parce qu'il y a des moments, il y a des moments où ça va super bien et d'autres où ça va un peu moins bien. Mais moi, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus, tu vois, d'un côté perso, où le fait de, voilà, d'être confiné, couvre-feu, etc., commence un peu à me peser. Mais moi, je garde, enfin, j'ai souvenir du coup d'une année 2020 et d'un début d'année 2021 hyper, enfin, assez génial parce que bah, j'ai emménagé à Lyon cet été. J'ai rencontré énormément de personnes, d'entrepreneurs qui ont pareil des projets soit dans le textile, dans la mode éthique, mais soit dans d'autres sujets complètement différents, mais grâce auxquels. J'ai pu apprendre beaucoup. Donc, ça a été beaucoup de rencontres et des super rencontres. J'ai la chance d'être accompagnée par deux incubateurs, dont un qui est en région parisienne, s'appelle Leaf for Good, et un autre qui est à Lyon et qui aide des projets à impact positif à s'implanter sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et pareil, c'est énormément de formations, de sessions de pitch, etc., qui m'ont fait énormément apprendre sur moi, sur mon projet et sur bah, comment mettre en place mon projet. Donc finalement, je garde. Moi, j'ai un bilan positif de l'année, même si parfois, petite baisse de morale, mais vraiment plus sur le côté où j'aimerais pouvoir plus profiter de la vie.
Et justement, parce que tes journées, elles semblent assez chargées, est-ce que tu te mets quand même des créneaux pour te poser et te reposer? Parce que ça, c'est vraiment la grande problématique des entrepreneurs, et notamment dans le lancement du projet, où c'est pas encore le cas, quoi.
Si, si, ah, déjà tous les, enfin, le midi, je me prends vraiment une pause déjeuner où je ne mange pas devant mon ordi. Je prends le temps de manger pour me faire vraiment cette pause. J'essaye aussi de faire régulièrement des pauses dans la journée, d'aller faire un tour dehors, etc. pour m'évader un petit peu parce qu'en fait, sinon, après, on ne s'en sort pas. Et j'essaye de pas travailler le week-end non plus. Ça n'arrive pas tous les week-ends, de temps en temps. Quand il y a des gros, quand il y a des grosses échéances, oui, ça arrive, mais sinon, j'essaye vraiment de déconnecter le week-end.
Super. Et aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde d'entrepreneuriat?
C'est de pas, en fait, de pas avoir peur, quelles que soient ses études, quel que soit son âge, quel que soit, enfin, son profil. Et si la personne a une idée qu'elle pense qu'elle est bien et qu'elle arrive à la valider auprès de personnes de son entourage ou de personnes qu'elle aurait identifiées comme des potentiels prospects, entre guillemets, bah c'est de se lancer et que de toute façon, bah si ça marche, c'est génial. Et si ça marche pas, c'est pas grave, ça laissera juste place à une autre opportunité.
Carrément. Et si tu dois offrir un livre à quelqu'un, ça serait lequel?
Moi, j'ai relu en plus assez récemment, c'est pas forcément très très gai, surtout en ce moment, mais j'ai relu récemment 1984 de George Orwell et je suis en train de relire Le meilleur des mondes. J'ai perdu le nom de l'auteur. Aldous Huxley. Alors, c'est pas forcément les bouquins les plus joyeux au monde, mais c'est hyper intéressant. Et je trouve que notamment dans le contexte actuel, ça fait prendre pas mal de recul.
Oui, et surtout, c'est assez visionnaire, quoi, quand même.
C'est
Et
complètement visionnaire,
c'est assez flippant, quand même.
ouais. Ouais, c'est un peu flippant.
Ouais. on va passer à la dernière partie de l'interview. Du coup, l'idée, c'est que tu te poses quelques questions et l'idée, c'est que tu réponds le plus spontanément possible à cette dernière partie.
Ok.
La première chose que tu fais le matin?
Je bois mon café.
Selon toi, qui incarne le mieux le mot réussite?
J'aurais dit Thomas Huriez qui a créé 1083.
Super. Quel animal te présente le mieux?
Les chiens.
Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as vue?
OVNI, une série sur Canal que je suis en train de regarder en ce moment et que moi personnellement j'adore.
Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité?
Je suis marrante.
Et quel est ton plus grand défaut?
Je suis un peu trop exigeante envers moi et envers les autres.
Ok, c'est quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres?
Qu'est-ce que je fais? Je me suis récemment acheté un défroisseur portable pour défroisser mes vêtements avant d'aller en shooting. À chaque fois que je l'utilise, je suis comme une gamine. Et franchement, je pense que je passe pour une folle à chaque fois.
J'adore. Du coup, c'est quoi la dernière chose que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent et où on peut aussi te retrouver?
Pour les personnes qui nous écoutent, si vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur ou si vous avez une idée et que vous hésitez à vous lancer, bah, n'hésitez pas, faites-le. Parce que sinon, vous direz, enfin, sinon, vous aurez toujours ce truc de vous dire et si j'avais essayé, qu'est-ce qui se serait passé? Et moi, bah, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Collectif Ringuet.
Super, ben merci beaucoup Agathe d'être avec nous aujourd'hui.
C'était chouette.
Merci, à très vite.
À plus tard, salut.
J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de partager autour de vous, d'en parler et de nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine.